Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international diffusé du lundi au vendredi sur France Culture. Avec, vous l'entendez peut-être, un nouveau générique pour cette 7e saison. Le principe, lui, vous le connaissez, un grand thème décliné sur 4 jours. Et puis pour conclure la semaine, le vendredi, un retour du terrain, le plus souvent un journaliste qui nous rapporte le fruit et les coulisses de son travail, suivi d'une table ronde sur l'un des sujets qui a marqué l'actualité internationale de la semaine. Avec notre partenaire, le journal Le Monde, le journaliste Marc Semo nous accompagnera comme depuis 6 ans maintenant. Et puis pour penser, pour préparer les émissions à mes côtés cette année, Tiphaine de Roquigny à la production adjointe, son essentiel acolyte Clémence Alézard et puis notre réalisateur Charles Le Gargasson, mes complices depuis plusieurs années maintenant. On accueille également d'ailleurs dans l'équipe Samuel Bernard à qui on souhaite la bienvenue, ainsi que Charlotte Roux qu'on aura le plaisir d'avoir avec nous le lundi à la réalisation et ce matin d'ailleurs à la console, Nicolas Delmas. Et puis, autre changement également cette année, on accueillera chaque jour en fin d'émission Brice Couturier, transfuge des matins et homme d'idées s'il en est, qui nous proposera un tour du monde des idées. Ça sera tout à l'heure à 11h55. Pour cette première semaine de la 7e saison de Culture Monde, et alors que le chef de l'État s'exprimera cette semaine devant les diplomates français lors de la conférence annuelle des ambassadeurs, nous avons choisi d'entamer cette nouvelle saison avec les grandes crises diplomatiques mondiales. Et aujourd'hui, c'est la Syrie qui va nous occuper 5 ans après le début du conflit. Près de 300 000 morts, 7 millions de déplacés. Le monde demeure incapable d'y mettre un terme. Syrie, échec de la diplomatie internationale, c'est notre sujet ce matin.
La dernière fois, lors des négociations de Genève 2, nous avons appris de nombreuses leçons. Cette fois, nous avons compris que si nous voulions de véritables échanges, il ne faudrait pas avoir de discussion sur les discussions elles-mêmes, mais nous devrions au contraire nous pencher sur le véritable sujet. À savoir le conflit syrien.
Aujourd'hui, je peux dire que nous avons éclairci certains points. Nous avons terminé la majorité de ces discussions techniques axées sur les moyens pour rendre cette cessation des hostilités réelle, pour améliorer le niveau d'aide humanitaire.
Pas à pas, avec chaque réunion, avec chaque conversation téléphonique, nous renforçons cette confiance. Et j'espère que nous aurons des résultats tangibles bientôt. Le plus important, c'est que ces résultats seront perceptibles par les Syriens eux-mêmes et tous ceux dans la région qui subissent cette crise.
Et oui, les modalités d'un futur accord pour tenter de mettre fin au conflit syrien n'ont toujours pas été trouvées. En effet, en fin de semaine dernière, à Genève, le secrétaire d'État américain John Kerry a vu son homologue russe Sergueï Lavrov pour tenter en vain de trouver un accord de sortie de crise sur la guerre en Syrie et de relancer les négociations. Pendant ce temps, la guerre continue. Et puis, dernier fait majeur aussi en date, l'armée du Turc, Recep Erdogan, qui s'est lancée mercredi dernier à Jarabulus dans la plus grande opération menée par les forces turques depuis le début du conflit syrien. Que change cette offensive turque dans le nord syrien ? Est-ce qu'on peut encore croire en la paix? La diplomatie internationale qui jusqu'ici a échoué à trouver un terrain d'entente pourrait-elle y conduire? Quelles sont les raisons d'y croire mais aussi d'en douter? Voilà les grandes questions qui vont mener nos discussions ce matin. Pour ce faire, deux invités avec nous en plateau. D'abord Alaa Konmani, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste à Libération. À vos côtés, Belin Nabli, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vous directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, et vous êtes par ailleurs directeur de l'Observatoire des Mutations Politiques dans le Monde Arabe au sein de l'IRIS, auteur l'un et l'autre d'ouvrages, je citerai la Syrie promise d'Alaa Konmani, mais aussi géopolitique de la Méditerranée pour vous, Belin Nabli. On va peut-être commencer avec ce qui marque quand même une grande évolution dans ce conflit syrien, à savoir l'engagement de la Turquie. Alaa Konmani, il y a quelques jours, l'armée turque, soutenue par les forces de la coalition internationale anti-djihadiste, a lancé une opération en Syrie, d'ailleurs soutenue par la coalition, on va voir comment. Hein. Mais donc, on a des avions de combat, on a des chars, on a visiblement des forces spéciales aussi, qui se sont lancées officiellement contre le groupe de l'État islamique, à la frontière de la Turquie. On est là dans le nord de la Syrie. On voit qu'il y a un accroissement certain de l'action de l'armée turque. On a beaucoup critiqué Alaa Konmani, évidemment, ce double jeu d'Ankara vis-à-vis de l'État islamique. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la Turquie est pleinement engagée dans le combat contre le IN? Et comment comprendre cet engagement militaire assez direct sur le territoire syrien et qui il vise concrètement, Alaa Konmani?
Ce qui est étonnant, c'est que c'est un engagement qui arrive très tard. Et que la volonté ou le désir des Turcs de faire cette opération, ça fait 2 ou 3 ans, avec un projet qui était, s'il avait été accepté par l'autre, la commune, par les autres partenaires, très cohérent, c'est éloigner de la frontière turque l'État islamique et surtout créer une zone de non, d'exclusion aérienne, pas d'exclusion aérienne, une zone sécure. Une zone de sécurité où il n'y aurait pas de raid aérien pour que les réfugiés syriens puissent trouver refuge justement
tout en restant en Syrie.
Et ce projet n'a jamais été accepté et ça a été à l'origine justement de pas mal de complications, de tensions dans les relations entre la Turquie et les États-Unis, mais aussi avec certains Européens, mais aussi avec certains acteurs du terrain. Entre-temps, les choses se sont déchaînées, c'est-à-dire que la dynamique militaire des combats en Syrie, on a eu de plus en plus de combats, on a eu l'État islamique qui a avancé sur certains points, il a reculé sur d'autres, et surtout, on a eu cette offensive des forces kurdes, essentiellement, soutenue par les Américains pour...
Donc c'est ça en gros, cette offensive turque, elle est là pour empêcher les forces kurdes de prendre trop de place, trop de contrôle dans cette zone frontalière, du nord de la Syrie, c'est ça en gros.
Bien sûr, parce que les Kurdes revendiquent un petit peu pour leur autonomie en Syrie toute la bande frontalière, une large part de la bande frontalière avec la Turquie, qui est inacceptable pour la Turquie. Et donc, il restait ce petit coin de Jarablus, justement, l'entrée autour de Jarablus, où, là, avec finalement un accord américain, la Turquie a pu avancer, et avec l'armée syrienne libre au sol.
Belin Nabli, 2 questions. Que change cette intervention turque? D'abord, sur le plan stratégique, sur le plan militaire, sur le terrain. Est-ce que ça change les choses, ou finalement pas tellement? Et sur le plan diplomatique, Belin Nabli.
Alors, sur le terrain, c'est important dans la mesure où les Turcs sont pas très clairs. Généralement, on aime bien présenter la situation en Syrie en opposant 2 blocs. D'un côté, un bloc réunissant la coalition internationale, ou dite comme telle, et qui réunit en vérité des forces arabo-occidentales, et de l'autre, des forces qui réunissent finalement les alliés du régime syrien. Là, les Turcs se présentent d'une certaine manière comme une tierce force. Ils ne sont pas clairement dans un camp ou dans un autre. Et ils ont entretenu cette ambiguïté, ou ils entretiennent cette ambiguïté du fait qu'ils ne sont pas eux-mêmes très clairs et qu'il n'y a pas de cohérence depuis le début du conflit syrien de la part de la Turquie vis-à-vis de la Syrie. Il y a eu des volte-face en cascade. Hein. Rappelez-vous, en 2011, Bachar el-Assad était persona non grata. Il fallait l'exclure de la scène régionale et nationale syrienne du point de vue turc. Aujourd'hui, nous avons assisté à un tournant dans le discours diplomatique turc, dans la mesure où le régime syrien n'est plus un élément à exclure dans la perspective de la sortie de crise. Donc les Turcs ne sont pas clairs parce qu'ils sont d'une certaine manière instables. Il y a des volte-face, on ne sait pas très bien finalement quels sont les fondements ou la perspective structurelle entre guillemets dans laquelle ils s'inscrivent, même si effectivement aujourd'hui on sait ce qui se passe et pourquoi. Effectivement, c'est vis-à-vis de la montée en puissance des forces kurdes du côté de la frontière turque, mais on peut comprendre aussi cette réaction militaire turque qu'eu égard à la situation interne turque. On ne peut pas comprendre, à mon avis, cette réaction spectaculaire sans prendre en considération, premièrement, la tentative de putsch qui a eu lieu et qui a déstabilisé, quoi qu'il en soit, le pays. Et deuxièmement, la crispation quasi paroxystique de la confrontation entre Kurdes turc et mais pouvoir turc.
Malgré, on parlera à nouveau de la Turquie demain, mais malgré ce manque de cohérence que vous soulignez, est-ce qu'on ne peut pas voir aussi à travers cette offensive turque le désir de se rendre incontournable dans des futurs aussi futurs qu'incertaines négociations ? Alors, on va voir qu'on est très bloqué, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi là de taper du poing sur la table pour dire « Oh, nous aussi, nous serons là pour les négociations. Quand on va discuter, il faudra compter sur Ankara. »
Alors, effectivement, dans la mesure où on s'impose à la table des négociations sur le plan diplomatique, d'autant plus facilement si on est présent
sur le terrain
militaire. Et c'est là, d'une certaine manière, où le bât blesse du côté de la coalition internationale, où, par rapport aux Russes, les Russes sont présents à la fois à la table des discussions et présents militairement. Ils bombardent, ils tendent à faire basculer les rapports de force en faveur du régime lorsque cela est possible, alors que du côté de la coalition internationale, on tente d'avoir un discours ambitieux, de moins en moins certes, mais ambitieux, et a priori ferme vis-à-vis du régime, mais sans s'en donner les moyens sur le plan militaire. On en est encore aux frappes aériennes, et là, l'argument n'est pas assez fort au moment de pouvoir s'imposer face aux Russes.
On va revenir sur le volet diplomatique, mais on est un peu obligé finalement de faire ces allées et venues entre le terrain et la diplomatie, parce qu'en réalité, les deux sont parfaitement liés. À la Côte-Manier, vous qui suivez depuis longtemps, et en particulier cet été, les différentes avancées, les différents reculs. Je me souviens, à la rentrée 2014, l'ensemble du monde constatait cette incroyable avancée de l'État islamique sur le territoire irakien et syrien. Et ces derniers mois, ce qu'on constate, c'est plutôt un recul, visiblement, de l'État islamique. Certaines villes ont été reprises, mais ils ont les grands bastions, je pense à Raqqa, je pense à Mossoul, restent quand même aux mains des djihadistes. Est-ce qu'on peut avoir, à la Côte-Manier, un petit état des lieux, quand même, du point de vue du contrôle du territoire aujourd'hui ? Est-ce que le recul des djihadistes est aussi conséquent qu'on semble le dire ? Est-ce que ça veut dire qu'on est sur le point peut-être d'en venir à bout ? Je voudrais votre opinion là-dessus, à la Côte-Manier.
Il faut surtout regarder, depuis 2 ans, tous les moyens, la mobilisation qu'il y a eu pour justement en arriver à faire reculer l'État islamique. Il y a eu, à mon avis, une première année pratiquement blanche. De 2014 à 2015, il y a eu constitution de la coalition, il y a eu des bombardements aériens, poivre et sel, on jetait comme ci, comme ça, avec aucun effet sur le terrain, même pire, parce qu'il y a eu de certaines positions que l'État islamique a avancé. C'est à partir...
De l'intervention russe ?
De l'intervention russe, non.
Non ?
Un petit peu, qu'il y a eu, oui, un petit peu. Ça a un petit peu provoqué une réaction occidentale pour rehausser là. Je dirais aussi les attentats du 13 novembre à Paris. Ça aussi, ça a joué pour monter énormément, non pas seulement de la part de la France, mais toute la coalition. Là, le danger était redoublé. Ce n'était plus un danger pour les Irakiens et les Syriens seulement et sur le terrain, mais ça passait à autre chose. Mais c'est vrai que depuis, des moyens énormes ont été mis en œuvre, aussi bien au niveau des bombardeurs aériens, au niveau des conseillers sur le terrain, au niveau du renseignement, très important, et de la mobilisation des forces locales. Parce que évidemment, sur le terrain, ce ne sont pas les gens de la coalition qui vont se battre. Que ce soit côté irakien, l'armée irakienne et les milices qu'elle choisit plus ou moins bien, côté syrien... préférence pour les forces kurdes, mais aussi certaines autres. Bref, il y a eu quand même des gros moyens mis en œuvre.
Pour des résultats relativement modestes, disons-le.
Non.
Alors évidemment, ce n'est pas modeste pour les gens qui sont...
Du côté de l'Irak, quand même, Tikrit, Fallujah, ce sont des positions très importantes. C'est quand même une grande partie du territoire. Syrie, maintenant, le territoire du califat se rétrécit.
Là où je veux en venir à la Côte-Manier, c'est... regardons par exemple, au milieu du mois d'août, la ville de Manbij a été reprise à l'État islamique par les rebelles. Je crois que c'est 100 000 habitants qui étaient pris au piège. Vous en avez parlé d'ailleurs dans l'un de vos papiers... dans Libération. C'est donc une nouvelle ville, c'est vrai, importante, qui a été reprise à l'État islamique. Mais c'est quoi la valeur stratégique de cette conquête ? En gros, à quoi ça sert de reprendre des petites et des moyennes villes si des gros bastions comme Raqqa restent aux mains de l'œil ?
Oui, mais des gros bastions qui deviennent des îlots ne sont plus des bastions. S'ils ne sont plus reliés entre eux et relié à un l'autre territoire et relié à la frontière, je veux dire, là, quand même...
Je dis ça parce que Jean-Pierre Filiou disait récemment dans une interview au Monde, je crois, de mémoire, que de toute façon, ça ne servait à rien de reprendre des petites villes et des moyennes villes si on laissait Raqqa, si on laissait Mossoul. Il dit, il faut y aller, il faut faire tomber ces villes, sinon on n'y arrivera pas.
Non, bien sûr. C'est pas la disparition de l'État islamique ne se fera pas, ne s'est pas faite à Membej ni à Fallujah, c'est sûr. Mais c'est pas du jour au lendemain qu'on peut y arriver. Et puis maintenant, il faut voir si l'objectif de faire disparaître l'État islamique sur le terrain est une chose réalisable.
Belig Nabli.
En tout cas, ça suppose ou ça supposerait une intervention militaire au sol. C'est d'une certaine manière la ligne rouge dans notre de la stratégie de la coalition internationale. On n'a pas encore franchi ce Rubicon. Or, la prise de Mossoul ou de Raqqa concrètement supposerait une telle intervention au sol. Et vous avez là une ligne de fracture à la fois intellectuelle et diplomatique et militaire. Mais il faut reconnaître que cette idée et en recul par rapport à 2011, si on prend un peu de recul précisément. Et deuxièmement, le fait que l'État islamique connaisse une succession de défaites, à la fois sur le territoire irakien essentiellement, mais aussi syrien, et j'ajouterais même libyen, puisqu'il la ville de Sirte est susceptible de tomber, eh bien, ça a quand même du sens. Pourquoi ? Pas que sur le plan militaire, sur le plan politique, parce qu'il y a quand même un projet politique derrière l'État islamique qui est d'instituer un État. Il faut prendre quand même leur ambition au sérieux, instituer un califat, un État islamique. Or, pour constituer un État, vous avez besoin d'une continuité territoriale pour finalement exercer votre souveraineté sur ce territoire et sur la population qui y vit. Si vous ne faites plus la démonstration de cette capacité-là, votre force d'attraction, à la fois idéologique et politique, votre rayonnement s'en trouve sapé mécaniquement. Donc c'est important. L'État islamique, son âge d'or qu'on a connu l'année dernière, ce fut rapide mais spectaculaire, était fondé non seulement à travers... ou sur la base de cette capacité à mener des attaques terroristes sur le territoire occidental, mais aussi à travers des victoires militaires et la constitution d'un projet politique au Moyen-Orient. Et c'est ce message-là qui a fait sa force aussi. Si vous sapez, vous remettez en cause ce projet-là, il restera finalement que sa dimension essentiellement immatérielle, qu'il ne faut pas sous-estimer, naturellement qu'il ne faut pas sous-estimer. Mais ce qui faisait et ce qui fait la différence fondamentale entre, par exemple, l'État islamique et Al-Qaïda, c'est précisément cette volonté d'ancrage territorial, cette volonté de traduire en acte politique, en acte territorial, un discours. Et si vous retirez cette matérialité-là, vous affaiblissez l'État islamique.
Oui, d'ailleurs, on peut peut-être, en vous entendant, se dire que d'une certaine manière, on peut s'attendre à une forme de retour d'Al-Qaïda, peut-être. C'est un système de vases communicants face à l'État islamique qui, perdant ses territoires, effectivement, pourrait perdre aussi de son influence. Donc ça sera peut-être à observer, peut-être une question qu'on se posera une autre fois. On se souvient, bien sûr, que la destruction d'un avion russe à la frontière syrienne par la Turquie avait provoqué une grave crise diplomatique entre Moscou et Ankara. L'une des choses aussi qui s'est passée cet été, c'est qu'on a eu une sorte de normalisation entre les deux pays, puisque Erdogan a rencontré Poutine, c'était à Saint-Pétersbourg, c'était le 9 août dernier.
À la suite de nos différents entretiens, nous avons décidé de ramener la Russie et la Turquie au niveau de coopération tel qu'ils auraient dû l'être, niveau politique, économique, culturel et sociaux. Notre priorité est d'atteindre la même coopération bilatérale d'avant-crise. Et c'est une tâche urgente, car lors de ces 5 derniers mois, les échanges entre la Russie et la Turquie ont été réduits de 43%. Atteindre le même nombre de touristes n'est qu'une affaire de temps. Le plus compliqué est d'assurer la sécurité des citoyens russes côté turc. Or, nos partenaires nous ont fait des garanties à ce sujet.
Voilà, conférence de presse commune entre Poutine et Erdogan le 9 août dernier à la Khomeini. En quoi cette normalisation peut modifier le dossier diplomatique syrien ?
Elle peut modifier, on sait déjà, enfin, l'intervention turque sur le terrain est une des premières conséquences de cette normalisation entre Moscou et Ankara.
Vous voulez dire que Ankara attendait de normaliser ses relations avec Moscou pour envoyer les chars?
Et même une autorisation, ou alors, il faut pas penser un instant que les Turcs sont intervenus en Turquie, là où la Russie est présente et domine le terrain depuis plus d'un an.
Sans l'accord de Moscou.
Près d'un an, sans un OK de Moscou, même s'il y a eu quelques...
OK de Washington aussi ?
Sans doute, oui. Sans doute. Attendez, l'offensive, les chars turcs ont traversé la frontière le jour où Joe Biden était à Ankara. Donc, non. Il y a...
ils ne pouvaient pas pas savoir.
C'est un accord très tardif des Américains. Ça fait plus d'un an que les Turcs disent aux Américains, on veut le faire. Non, c'est important. Le jeu de la Turquie, là, de rééquilibrage un petit peu, de jouer Moscou contre Washington, se révèle gagnant. Parce que du coup, dès qu'il a annoncé une normalisation, etc., avec Moscou, les Américains ont bougé. Bon, il y a eu aussi l'attentat de Gaziantep la semaine dernière qui a précipité. Mais les Américains étaient là, en alliés, vraiment très très passifs et très peu engagés. Donc, le jeu de bascule que Erdogan a fait. Et puis, bon, la composante essentielle, il ne faut pas peut-être chercher plus que ça, c'est que la Russie comme la Turquie ont terriblement besoin l'un de l'autre sur le plan économique. C'est vital pour l'un et pour l'autre.
Béline Dabli, sur cette normalisation entre la Turquie et la Russie.
Elle marque effectivement un rapprochement diplomatique et militaire entre Russes et Turcs, mais il ne faut pas sous-estimer aussi le... Alors, je n'oserais pas le mot camoufler, mais quand même, c'est un message, un signal envoyé aux Américains, parce qu'en intervenant, les Turcs officiellement visent le combat contre l'État islamique, mais on sait tous que derrière l'écran de Daesh, il y a les Kurdes syriens, et que derrière les Kurdes syriens, il y a dans l'esprit turc les Kurdes turcs, le PKK, présent sur le territoire et avec lequel ils mènent à la fois un combat politique et sécuritaire. Or, les Américains soutiennent de facto les forces kurdes syriennes. Donc, en acceptant, ou plutôt en n'ayant pas véritablement le choix, parce que les Turcs n'ont pas vraiment laissé le choix aux Américains, là, pour le coup, les Américains n'ont pas laissé tomber les forces kurdes alliées sur les territoires syriens, mais de facto ont affaibli mécaniquement.
Mais il n'y a pas eu de... Moi, je n'ai pas lu de communiqué de la Maison-Blanche qui dénoncerait l'intervention turque.
Qui dénoncerait, vous dites ?
L'intervention turque.
Oui, mais justement. Oui. Même s'ils ne dénoncent pas, il y a eu ou bien un feu vert, ou bien ils ont laissé faire. Et de toute façon, ça signifie bien qu'il y a eu, entre les Kurdes syriens et l'allié turc, les États-Unis ont tranché d'une certaine manière. Ils ont soutenu leur traditionnel allié, membre de l'OTAN, extrêmement important dans la région, extrêmement important dans la perspective de la solution de la crise syrienne. Là, pour le coup, c'est aussi ça, le prix à payer du silence occidental post-tentative de putsch en Turquie. Les Turcs continuent à faire payer, entre guillemets, au moins symboliquement et diplomatiquement, la volonté occidentale de raffermir son positionnement par rapport au pouvoir de plus en plus autoritaire d'Erdogan. Sauf que, précisément, il y a là un coup diplomatique. Et si je puis me permettre, cette séquence me rappelle une séquence, la séquence égyptienne post-accession au pouvoir de Al-Sisi. Les Égyptiens aussi, l'institution militaire, a gardé à l'esprit la manière dont les Américains et l'administration Obama avaient gardé le silence, ou du moins avaient accompagné la révolution de 2011. Mécaniquement, une fois revenu au pouvoir, l'institution militaire, via la présidence Al-Sisi, s'est tournée vers la Russie, s'est rapprochée de la Russie, et pour, d'une certaine manière, montrer aux États-Unis que l'alliance stratégique n'était pas forcément éternelle et qu'elle n'était pas inconditionnée et qu'il fallait d'une certaine manière prendre en considération la réalité du pouvoir interne et prendre en considération le respect qu'il fallait avoir à son égard.
À la Côte-Manie, je vous ai vu lever le doigt, donc je vais vous laisser réagir, mais entre deux, je vais glisser une question qui me vient, parce qu'on a le sentiment finalement que la Turquie est dans un système de double alliance, c'est-à-dire une alliance évidemment avec Washington, rappelons-le, membre de l'OTAN quand même, et puis l'alliance avec Moscou qu'on décrivait à l'instant. Il y a eu, il faut le rappeler aussi, un autre fait pendant l'été, c'est cet accord entre Lavrov et Kerry sur la lutte commune contre Al-Nusra et l'État islamique. Est-ce qu'on n'est pas quand même en train d'assister, d'une certaine manière, à une convergence, alors peut-être pas une convergence des intérêts, mais en tout cas, justement, à une convergence des luttes, d'une certaine manière. Alors, bien sûr, il y a encore les différences qu'on a décrites avec les forces kurdes, etc., mais d'une certaine manière, voilà, Moscou et Washington se sont à peu près mis d'accord sur les cibles qu'ils auraient en commun, et d'une certaine manière, c'est quand même une avancée importante, même s'il reste des divergences, j'entends bien. À la Côte-Manie.
Moi, j'ai beaucoup plus l'impression que c'est Moscou qui travaille et Washington qui dit oui ou non, peut-être, on va voir, attendez. Bon, on a d'un côté une dynamique russe depuis un an au moins sur le théâtre syrien qui est... Ils mènent tout, quoi. Ils mènent le jeu diplomatique, politique, intérieur, à Alep, à l'attaquer, etc.
Mais alors pourquoi cet accord entre les États-Unis et la Russie?
Et les Américains sont dans une... J'ai l'impression que tous les matins, Poutine se lève en se disant « qu'est-ce que je vais prendre comme initiative ?» Alors que en face, oui, on est dans l'ère de l'indécision totale. Les États-Unis sur le dossier syrien. Bon, maintenant on comprend.
Ah bah c'est ça la doctrine d'Obama, c'est le leading from behind. Hein. On reste derrière, on attend, on voit.
Mais du coup, ça donne. Ça ne fait rien aboutir. On a entendu au début de l'émission cette intervention que Kerry Lavrov n'arrête pas de se voir, n'arrête pas de manger ensemble, de prendre des verres, de s'amuser, de discuter, de. Et n'arrête pas de ne pas tomber d'accord sur tout.
Belignabli.
L'identification de l'État islamique et des groupes djihadistes en général comme ennemis communs, franchement, ce n'est pas tout à fait nouveau en vérité. Et la preuve, c'est que les premières coopérations...
Il n'y avait jamais eu d'accord jusqu'ici.
Il y a eu...
Il n'y en a toujours pas.
Oui, formellement, il n'y a pas vraiment
de... Si, ils sont mis d'accord pour cibler Al-Nusra et l'État islamique. Alors, vous me direz, le front Al-Nusra, entre-temps, a eu l'intelligence, si je puis dire, de changer de nom et de se détacher. Bien sûr, mais quand même.
Oui, mais il y a eu des accords sur une coopération autour du ciblage de certaines de certains groupes précisément. La coopération ne date pas d'aujourd'hui. Il y a de la coopération officiellement entre la coalition internationale et les forces russes, notamment pour qu'il n'y ait pas précisément de bavure en vérité. Mais il y a déjà de la coopération et cette coopération-là, elle avait été justifiée déjà à l'époque. Par précisément l'identification d'ennemis communs. Et d'ailleurs, là aussi, les attentats à Paris avaient accéléré cet impératif de coopération. Donc là, il n'y aurait pas véritablement de progrès. Ce qui est très intéressant, c'est de savoir si l'argument de l'État islamique comme point de convergence va pouvoir tenir très longtemps. Parce que si l'État islamique s'effondre, qu'est-ce qui restera ? Pour justifier finalement le statu quo ou la non-sortie de crise. Je dirais là, l'argument de l'État islamique est un argument dont se servent finalement les différents protagonistes pour finalement jouer leur propre carte personnelle et ce qui est assez logique d'un point de vue réaliste, d'un point de vue des relations internationales.
Vous disiez à la Côte-Manie que finalement Moscou et Washington n'étaient à peu près d'accord sur rien. Il y a un point sur lequel ils sont de moins en moins en désaccord, c'est sur le sort de cet homme.
Il y avait une volonté politique qui était celle de vous déloger du pouvoir. C'était en tout cas la volonté de Washington. Et il semble que cela ait changé. N'avez-vous aucune idée de la raison pour laquelle les États-Unis ont changé d'avis sur ce sujet? Le problème avec les officiels américains, c'est qu'ils disent quelque chose, puis ils masquent leurs intentions. Ils vont dans différentes directions. Ils font l'inverse de ce qu'ils prétendent. Il est donc difficile de connaître leurs intentions réelles. Ce dont je suis sûr, c'est qu'ils n'ont pas de bonnes intentions envers la Syrie. Peut-être qu'ils font des stratégies, des manœuvres, mais leurs intentions réelles n'ont pas vraiment changé.
Voilà, interview de Bachar al-Assad à NBC, c'était au mois de juillet dernier. Pendant longtemps, à la Khomeini, c'est vrai que Washington et Moscou s'opposaient sur ce point de litige absolument indépassable, le sort de Bachar al-Assad. Aujourd'hui, cette question semble en tout cas moins problématique, les États-Unis étant visiblement disposés à ne plus exiger son départ. Le sort de Bachar n'est plus un obstacle aujourd'hui ?
Du point de vue diplomatique ? C'est devenu une question au deuxième plan. Dès lors que la priorité absolue est déclarée de tout le monde, c'est de combattre le terrorisme. C'est un petit peu Bachar al-Assad qui a grandement contribué à ce qu'on en arrive là.
Mais Bachar dit que c'est les États-Unis, hein,
oui,
bien sûr.
Non, mais aujourd'hui, les Américains en particulier, qui étaient qui disaient qu'ils voulaient se débarrasser très vite de Bachar al-Assad, sont absolument concentrés sur le combat contre l'État islamique. Donc, les conséquences après, sur le théâtre syrien, sur le théâtre irakien, deviennent vraiment des détails inintéressants pour eux. C'est pour ça que, ce n'est plus un point de litige vraiment. Mais, je crois que de toute façon...
Est-ce que c'est plus un point de litige au point d'envisager une personnalité qui pourrait assurer la transition et qui sera acceptée et par la Russie et par les États-Unis, ou là, je suis dans la fiction.
Lui, pour assurer la transition, oui.
Est-ce qu'on a une idée du côté de Washington et Moscou de qui pourrait...
Pour l'instant, c'est ce que les Russes veulent absolument arriver à ça. C'est-à-dire qu'au moins, ils gèrent la transition, ce que plus ou moins les Turcs ont accepté ou presque. On n'en est pas là.
On n'en est pas là. Belik Nabli.
Peut-être qu'ici, il faut distinguer la personne de Bachar du régime lui-même pour peut-être trouver une solution de compromis. Et c'est ce qu'on peut aussi comprendre entre les lignes dans les positions et l'évolution des positions des uns et des autres. C'est qu'effectivement, le départ de Bachar al-Assad comme à la fois, rappelez-vous, préalable à toute négociation, à toute sortie de crise, c'est une ligne rouge qui n'existe plus, c'est une fiction. Aujourd'hui, par contre, le fait de considérer que le futur du pays et que la sortie de crise dépendent de la personne de Bachar al-Assad demeure quand même un point de crispation. Et les Russes, là, pour le coup, se gardent une marge, j'allais dire, d'appréciation, une marge de manœuvre, dans la mesure où eux-mêmes, ce qui est important pour eux, c'est de garder la Syrie comme un régime allié. À la limite, quelle que soit sa représentation politique, quel que soit celui qui incarnera ce futur. L'important, c'est de garder les bases militaires, parce que les Russes n'ont pas d'autres bases militaires dans la région, dans une région qui demeure stratégique. Donc l'important, c'est de garder ce point d'ancrage dans la région pour les Russes, quel que soit finalement celui qui l'incarnera à titre personnel. Donc on peut imaginer un futur pour la Syrie sans Bachar, mais avec... un produit du régime actuel.
Vous parliez de ligne rouge, Belik Nabli, on se souvient évidemment celle qui avait été tracée par Barack Obama et allègrement franchie par le régime de Damas avec cette... Obama avait dit pas d'utilisation d'armes chimiques, sinon il y aura une intervention américaine. À la Khomeini, la semaine dernière, il y a eu un rapport justement des Nations Unies qui révélait que le régime de Damas et le groupe de l'État islamique avaient utilisé des armes chimiques. On se souvient évidemment que la Russie avait emporté une victoire diplomatique très importante lorsqu'elle était intervenue pour éviter cette intervention américaine en échange de l'organisation du démantèlement des armes chimiques syriennes. Est-ce que cette révélation est de nature à affaiblir le Kremlin dans son rapport de force avec Washington ?
Les Russes ont tout essayé pour retarder au possible cette enquête de l'ONU qui porte uniquement sur 3 cas où on pouvait, litigieux, alors qu'ils ont évidemment opposé un veto à toute enquête sérieuse sur l'attaque de la Ruta de 2013, où il y a eu quand même 1400 civils gazés. Je crois que maintenant, dès lors qu'il y a qu'ils ont accepté le processus, etc. Mais c'est une affaire qui va durer des années. On va aller enquêter. Ah oui, il faut prendre des sanctions dès lors qu'il a été prouvé que effectivement ce régime qui a signé pour rendre ses armes chimiques et pour ne pas les utiliser, les a finalement utilisées. Il en a utilisé 10 fois plus, dans 20 fois plus de cas que ce qui a été enquêté et prouvé pour l'instant. Même l'ONU a enquêté sur ce d'autres. C'était pas 100% garanti.
Mais sur le court terme, ça va pas renforcer Washington dans le rapport de force.
Non, ça va peut-être jouer, ça va faire une condamnation. Mmh. Peut-être que les Russes seront embarrassés de faire un veto sur un truc qu'ils ont bien voulu.
Bélik Nabil.
En tout cas, officiellement, c'est un argument important quand même. Hein. L'argument humanitaire en général, la situation humanitaire à Alep, mais aussi à Dariat, sont d'une... relève de la tragédie humaine. Et cette dimension-là a pris une importance nouvelle. Même si l'argument de la lutte contre le terrorisme demeure naturellement, d'un point de vue réaliste, au sein des chancelleries, le premier objectif stratégique, il n'empêche, la réalité humanitaire est telle qu'elle pèse aujourd'hui véritablement dans le discours et dans la position américaine et occidentale, avec une vraie légitimité du côté européen, dans la mesure où on associe quand même la situation humanitaire tragique avec la crise des réfugiés. Tant que la situation humanitaire sera désespérée en Syrie, la pression ou la crise des réfugiés issue de cet ensemble territorial qui va de l'Irak finalement à la Syrie pèsera également indirectement ou directement sur l'Europe. Et là, on en revient au rôle clé pivot que joue la Turquie comme territoire, mais aussi comme autorité de régulation de cette crise. Mais vous avez là, effectivement, un élément essentiel. Hein. La question humanitaire, elle est importante politiquement, pas au nom des droits, pas simplement, en tout cas, au nom de la question du respect des droits de l'homme, mais aussi parce que c'est devenu un problème qui concerne directement les pays européens.
Ah oui, parce qu'effectivement, il y a les rapports des Nations Unies et puis il y a le terrain, la situation humanitaire que vous décriviez, parce que pendant ce temps, à Alep...
C'est près de 300 000 morts, hein, désormais.
On est ici dans le quartier de Shaar. Il y a des dizaines de victimes. Nous avons dû transporter les blessés par dizaines dans les ambulances et avons dû les emmener aux hôpitaux. Pendant que nous étions en train de secourir les blessés, nous avons essuyé 2 frappes aériennes du côté du marché des légumes. Là aussi, c'était un massacre. Et comme vous pouvez le voir, le marché devant moi n'a ni combattants armés, ni armées libres, ni terroristes. Où sont les terroristes dont on nous parle? Ce n'est qu'un simple marché.
Voilà, Alep, ville martyre, ville symbole aussi de cette incapacité de la communauté internationale et des Nations Unies à ramener la paix. Alaa Khonmani, est-ce qu'on peut espérer une trêve à Alep? Est-ce que devrait faire l'ONU pour lui porter secours? Est-ce que le cessez-le-feu à Alep aussi est une condition nécessaire pour relancer le processus?
C'est catastrophique qu'on puisse encore se poser ces questions maintenant. C'est-à-dire Alep, on est encore en train de se dire « Ah ben, ils vont y arriver, ils vont pas y arriver, est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut l'ONU, est-ce qu'il faut... » Bon, c'est une catastrophe humanitaire, ça fait des mois que c'est le cas. Quand il y a eu siège, quand la partie d'Alep a été assiégée pendant un mois, tout de suite, il n'y avait plus d'hôpitaux, il n'y avait plus de quoi manger, boire, etc. Mais... moi, je crains même qu'un scénario d'Araya à Alep, c'est peut-être, ça paraît énorme, mais on se demande comment, jusque-là, rien n'a bougé. Et comment ça continue? Je veux dire, les Russes bombardent directement Alep. C'était plus, ces gens-là qui disent qu'ils sont les partenaires principaux, ils bombardent directement. Je crois que Alep est devenu cristallise. Complètement le bras de fer. C'est on veut Alep, dit de côté régime et du côté de ses alliés, et de l'autre côté, pareil, on va résister, on n'aurait pas Alep. Et ça reste comme ça. Maintenant, ce qui est terrible, comme je disais, c'est que n'importe quel, même quand l'opinion s'enflamme un instant, pour, comme on l'a vu avec cette photo du garçon blessé. Ça dure ce que ça dure de tourner une page Facebook, c'est-à-dire 1 heure, 2 heures, 3 heures, 24 heures. magnifique. Ce que les, bon, on a vu, puis top, l'attention retombe, l'intérêt retombe, l'émotion retombe, et les bombes sur Alep aussi.
Bing Nabli, un mot à ajouter sur Alep, et puis peut-être que ça nous invite à se poser une question plus générale, plus globale, c'est-à-dire se demander finalement comment va venir la paix. Est-ce qu'il y aura à un moment effectivement une solution sur laquelle tous les acteurs, toutes les nations vont parvenir à se mettre d'accord, ou est-ce qu'il faut envisager finalement un scénario dans lequel on va trouver plusieurs accords de cessez-le-feu au niveau local, avec des acteurs de terrain? Finalement, la question, c'est la paix, elle va venir d'où? Des dirigeants, ou elle va s'imposer depuis la base? Quand elle viendra, on voit que c'est pas encore d'actualité, mais projetons-nous.
On a beaucoup parlé de puissance internationale et régionale. Il convient aussi de mettre les acteurs locaux, c'est-à-dire les Syriens, face à leur propre responsabilité, qui n'est pas simple. Et on sait tous ici que le premier responsable de cette tragédie est Bachar el-Assad. Mais il faut croire dans la capacité des peuples à trouver eux-mêmes la solution, et finalement la solution politique pour dessiner finalement le futur de ce pays. Et malheureusement, on en est à se tourner presque par réflexe vers des puissances régionales et internationales qui n'ont pas forcément, et c'est la loi des relations internationales, qui n'ont pas forcément l'intérêt du pays, l'intérêt du peuple syrien comme premier impératif. Et deuxième élément, dans la perspective de cette sortie de crise, nous l'espérons du moins, il y aura aussi cette tension, cette crispation entre le rapport de force politique et la question du droit international. Il ne faut pas balayer d'un revers de main la perspective, voire la possibilité et l'exigence d'imaginer un tribunal pénal international autour de ce conflit. Il y a eu des crimes qui relèvent précisément des crimes les plus importants, ceux qui sont susceptibles d'être poursuivis devant la Cour pénale internationale, mais celle-ci aura un problème de recevabilité, c'est-à-dire pour la saisir par rapport au cas syrien. On peut donc imaginer un tribunal pénal international pour condamner ou poursuivre certains acteurs qui sont responsables d'un certain nombre de crimes qu'ont subis les citoyens syriens.
Syrie, l'impossible entente, c'est notre sujet ce matin dans une série consacrée aux grandes crises diplomatiques avec Alaa Konmani et Bing Nabli. On va retrouver un troisième invité pour parler de l'Iran et en particulier des relations entre la Russie et l'Iran. Bonjour Clément Terme.
Bonjour,
merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheur à l'Institut international d'études stratégiques. Vous êtes en ce moment au Royaume du Bahreïn. La Russie et l'Iran sont les deux principaux alliés du régime syrien, on le sait. Il y a une quinzaine de jours, le ministère russe de la Défense a annoncé que ces bombardiers avaient mené des raids contre les djihadistes depuis une base aérienne. C'est la première fois depuis le début de la campagne russe déclenchée en septembre 2015 que les avions russes décollent depuis l'Iran, alors même qu'on le sait, la Russie dispose de bases sur le territoire syrien. Première question extrêmement naïve, pourquoi ces frappes russes depuis l'Iran? Est-ce que c'est seulement une question militaire, stratégique, ou est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses, des raisons moins apparentes, Clément Terme?
Oui, tout à fait, il y a des raisons militaires, puisque la base d'Hamadan permet à la Russie de réduire les distances et de se ravitailler aussi en Iran. Mais il y a aussi une raison politique, pour notamment le guide suprême iranien et les plus conservateurs en Iran, qui souhaitent la construction d'une alliance stratégique avec la Russie. Et comme preuve, en fait, de leur bonne volonté vis-à-vis de la Russie, ils ont mis à disposition cette base, espérant aussi avoir des concessions dans le domaine militaire, puisque l'Iran, après l'accord sur le nucléaire de juillet 2015, est de retour dans le concert des nations, et la Russie, notamment le complexe militaro-industriel russe, souhaite développer ses coopérations militaires avec l'Iran, puisque l'Occident maintient un embargo sur les armes vis-à-vis de l'Iran. Donc il y a des intérêts aussi corporatistes en Russie.
Oui, mais visiblement, c'est des intérêts finalement communs. Des deux côtés, on a cet intérêt-là. Mais est-ce qu'on peut interpréter aussi ces frappes russes depuis l'Iran, sachant que depuis, elles se sont arrêtées, comme le signe finalement que Téhéran est peut-être de plus en plus soumis, c'est peut-être un peu fort, mais dépendant de Moscou?
Oui, on peut dire que à l'époque impériale du Shah d'Iran, Le Shah n'a jamais accepté des bases américaines, notamment en 1962, et c'est ce qui avait permis à l'époque le rapprochement avec l'Union soviétique. La République islamique, qui a un article de la Constitution, l'article 146, qui interdit la présence de bases militaires étrangères sur son territoire, et qui, dans sa Constitution, pose comme priorité la coopération avec les pays musulmans et les non-alignés, a permis à une grande puissance du Conseil de sécurité, qui a un droit de veto, la Russie, d'utiliser une base à l'intérieur de son territoire. Ça a provoqué un débat très très fort au Parlement iranien, et c'est pourquoi le fait que ça a été rendu public, parce que à partir du moment où l'utilisation était secrète, les plus conservateurs en Iran ont maintenu cette idée, notamment autour du guide suprême et du président du Parlement, et la légalité selon la constitution iranienne. Mais je pense que la raison qui est invoquée, c'est l'opposition au djihadisme sunnite. Et ça va dans le discours des plus conservateurs en Iran sur une possible complicité entre l'Occident et ses djihadistes sunnites. Donc ça alimente le discours de l'ayatollah Khomeini sur ce qu'il a appelé l'islam américain, finalement. Donc les monarchies du Golfe, les rebelles syriens, etc. Donc ça va dans la propagande iranienne, ça joue, et la Russie est présentée en Iran comme un acteur anti-salafiste que l'Iran appelle les takfiris. Donc il n'y a pas de distinction entre les frères musulmans, les salafistes, etc., du point de vue de la Russie.
Oui, et en même temps, visiblement, on n'est pas totalement d'accord. On sait bien sûr que le pouvoir iranien est bicéphale. On a d'un côté le président Hassan Rouhani et puis de l'autre côté le guide suprême, Ali Khamenei. Qui détient les clés de la diplomatie étrangère? Et est-ce que... parce que là aussi, on a une forme de reculade. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une première campagne de frappe aérienne qui s'arrête très vite au bout de quelques jours. Est-ce que ce n'est pas le signe aussi que finalement le guide suprême a repris les rênes et a repris l'initiative en matière de politique étrangère? Est-ce qu'on peut l'interpréter comme ça?
Je pense que c'est surtout le fait que l'information a été rendue publique par les Russes. Donc après, on a prétendu que le décalage de l'annonce publique était lié au décalage horaire entre Moscou et Téhéran, mais je pense que personne n'est dupe. Donc le président, lui, essaye de reconstruire la relation avec l'Occident, et un des obstacles est la participation de l'Iran dans les conflits régionaux. Donc pour surmonter ces obstacles, notamment le rétablissement des relations bancaires avec l'Occident, le président est prêt à faire plus de concessions que le guide, alors que le guide, lui, perçoit en fait la crise en Syrie ou la politique régionale de l'Iran comme faisant partie de l'identité de la République islamique, dont l'objectif est de défier, si vous voulez, l'existence d'Israël, et la Syrie est un moyen pour parvenir à soutenir le Hezbollah libanais. Donc il y a une vision plus idéologique et une vision plus pragmatique qui s'affrontent, et les relations avec la Russie font partie de ce débat interne en Iran.
Et dans cette lutte des visions, comment l'opinion iranienne se situe? Comment est-ce qu'elle a réagi quand elle a appris effectivement ces opérations russes menées depuis le sol iranien?
Alors la participation iranienne militaire en Syrie est présentée aujourd'hui en Iran contre la lutte contre Daesh et ce qu'on appelle l'islam des takfirs, donc des excommunicateurs. Donc au début, bien sûr, en 2011, il y avait une sympathie du peuple iranien vis-à-vis du peuple syrien qui se révoltait contre un régime autocratique. Mais aujourd'hui, depuis l'émergence de Daesh, un peu sur le modèle de ce qui s'est passé en Occident, la priorité est mise sur la lutte contre le terrorisme et l'éradication de Daesh. Donc tous les moyens sont bons, si vous voulez, du point de vue de l'Iran pour éradiquer Daesh, un peu sur l'évolution qu'on a connue en France après les attentats du 13 novembre, ça a été mentionné par un de vos intervenants sur le plateau. On a eu une évolution aussi en Iran avec la peur d'une contagion de Daesh sur le territoire iranien. Mais pour l'Iran, la priorité reste l'Irak, à mon sens, puisqu'il y a une frontière commune et le risque de voir l'émergence de Daesh aux frontières de l'Iran.
Alaa Khodmani, je voudrais vous entendre sur cette question du rôle de l'Iran, parce que finalement, c'est vrai qu'on a beaucoup, on parle beaucoup d'acteurs assez lointains, finalement. Washington, Russie, on oublie quand même que bien avant cela, l'acteur principal, ça reste quand même l'Iran dans tout ça. L'une des avancées majeures, vous disiez tout à l'heure que l'administration américaine n'avait pas fait grand-chose, voire rien du tout, l'une des grandes avancées quand même à mettre au bilan de la politique étrangère d'Obama, c'est ce réchauffement avec l'Iran qui a pu se faire à la faveur de cet accord sur le nucléaire iranien voulu et obtenu pour le coup par le président Barack Obama.
On a compris, c'était l'une des raisons pour lesquels il n'est pas intervenu, donc, au moment de l'affaire des armes chimiques en Syrie. C'était pour ne pas compromettre les...
Absolument. Mais d'une certaine manière, on ne voit pas le résultat, le produit de ce rapprochement entre Washington et Téhéran dans le dossier syrien. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que Téhéran serait plus disposé à écouter Washington sur ce dossier-là. On sent que finalement... pour le coup, on parlait d'immobilisme. Voilà non, aussi un endroit où c'est l'immobilisme le plus total sur la Syrie.
Ces relations, bon, comme les Iraniens savent faire souvent, mais tout le monde prend son temps. Tout le monde manœuvre, joue, prend son temps. Et face à l'urgence de la situation syrienne, on a l'impression que chacun avance doucement. Dans un jeu d'échecs, en réfléchissant longuement, les urgences du terrain ne sont pas du tout au même rythme. Maintenant, l'Iran a été, si je peux dire, l'acteur le plus cohérent de tout ce jeu syrien. Enfin, en tout cas sur le territoire syrien. C'est-à-dire que dès le premier jour, ils se sont fixés une priorité, c'est soutenir ce régime pour des raisons politiques, religieuses, militaires, et de tout mobiliser dans ce sens-là. Maintenant, c'est plus que de soutenir le régime, l'Iran est aujourd'hui un acteur essentiel et même qui a des, comme on dit, des actions en Syrie maintenant.
Acteur
dans l'économie syrienne, après toutes les dettes qu'elle a envers l'Iran pour influer sur le terrain, pour les forces militaires. L'armée de Bachar al-Assad n'existerait plus sans l'aide des milices iraniennes.
Acteur essentiel, évidemment, et partenaire, bien sûr, privilégié de Moscou. Et je vais me tourner vers vous, peut-être pour une dernière question, Clément Terme. On arrive vraiment au terme de cette émission, donc je vous demanderai de faire bref. Mais pour mettre un peu les choses en perspective, vous avez créé un ouvrage qui s'appelle « Les relations entre Téhéran et Moscou depuis 1979 ». Parce que Moscou n'a pas toujours été un allié de la République islamique d'Iran. Au temps de l'URSS, l'ayatollah Khomeini considérait que le communisme était absolument évidemment incompatible avec l'islam. Mais d'ailleurs, du temps de la guerre Iran-Irak, les soviétiques soutenaient le régime de Saddam. Alors quand et pourquoi, très rapidement, et puis on ira plutôt lire votre livre pour en savoir plus, mais quand Téhéran et Moscou ont enclenché ce partenariat privilégié, en quelques mots?
C'était surtout au lendemain de la chute de l'Union soviétique. Il n'y avait plus cette concurrence idéologique entre le communisme et l'islamisme. Et ensuite, il y a eu l'émergence des questions géopolitiques de l'Asie centrale, du Caucase et de l'Afghanistan. Et dans ces espaces, la Russie a trouvé dans l'Iran déjà un combattant de l'islam sunnite radicalisé, des talibans et des groupes affiliés à Al-Qaïda. Donc déjà, dans la lutte contre le terrorisme, à l'époque où les États-Unis étaient ambigus vis-à-vis des talibans dans les années 90... déjà, l'Iran et la Russie se voyaient comme des précurseurs, si vous voulez, de la lutte contre le djihadisme sunnite. Ensuite, il y avait les sanctions et l'embargo unilatéral occidental contre la République islamique d'Iran, qui n'a pas laissé d'autre choix, si vous voulez, à l'Iran de coopérer avec la Russie dans des domaines sensibles, comme le nucléaire, les coopérations militaires ou le domaine spatial. Donc il y a eu l'émergence de cette entente pragmatique. Mais on a vu récemment que ce ne sont pas des alliés. Il s'agit vraiment d'un mariage de circonstances en fonction du contexte régional, et la Syrie a contribué au rapprochement entre les deux puissances, même si les deux systèmes politiques ont des difficultés à collaborer dans la confiance.
Un mariage de circonstances, c'est la formule qu'on retiendra. Merci beaucoup Clément Terne. Je rappellerai votre ouvrage « Les relations entre Téhéran et Moscou depuis 1979 ». Un grand merci à vous, Alaa Kodmani et Belyg Nabi, de nous avoir accompagnés ce matin. Je rappellerai « La Syrie promise », qui était paru chez Actes Sud pour vous, Alaa Kodmani, et « Géopolitique de la Méditerranée », c'était Charmant Colin, Belyg Nabi. Merci beaucoup à tous les deux. Peace. We just want peace. Mais pour l'heure, on va retrouver, comme chaque jour, dorénavant, Brice Couturier pour sa rubrique quotidienne, le Tour des idées. Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Bonjour, eh bien écoutez, c'est à vous. Vous allez peut-être en quelques mots nous présenter un peu l'objet, l'intention, la promesse de votre rubrique. Et puis je suis ravi, en tout cas je vous le dis, de pouvoir vous entendre chaque jour dorénavant. C'est un plaisir Brice.
Merci Florian de m'accueillir. Eh bien, ce qui fut mon programme quand j'ai rejoint notre radio pour la première fois en 1985, c'était ouvrir les fenêtres intellectuelles de l'Hexagone, rendre compte du débat d'idées à l'étranger. Et effectivement, Culture Monde m'a paru le point d'attache idéal pour ce faire. Alors, pour prendre l'actualité, je vais vous parler parler cette semaine du capitalisme. 8 ans après l'affaire des subprimes et la crise financière qui a failli emporter le système bancaire américain tout entier, où en est le capitalisme? Que sait-on de nouveau sur ce mode de production? Est-il parvenu à se redéployer comme il l'avait fait après chaque crise? Cette dernière métamorphose porte-t-elle en germe une prochaine crise? Et celle-ci peut-elle lui être fatale? Eh bien, c'est à cet ensemble de questions que je vous invite cette semaine à l'aide de lectures de la presse étrangère, d'Internet et de quelques ouvrages récents. Premier constat, l'adhésion au capitalisme est en chute libre dans le pays qui s'est identifié aux yeux du monde comme le cœur même du système. Parmi les jeunes Américains de 18 à 29 ans aujourd'hui, 42% seulement déclarent qu'ils soutiennent le capitalisme. Alors que, je le rappelle, 70% des Chinois se disent, eux, partisans de l'économie de marché. Comme l'écrit la rédactrice en chef économique du news magazine Time, Rana Forouar, il y a aux États-Unis une crise de foi, un manque de confiance. Les Américains sont de plus en plus nombreux à se demander au profit de qui et au détriment de qui le système fonctionne-t-il? C'est que le marché, voyez-vous, aux États-Unis apparaît comme déréglé. On ne compte plus le nombre d'articles et d'essais proposant des remèdes pour réparer le capitalisme. Il y a même des sites expressément consacrés à cette affaire, How to Fix Capitalism. Et bien, dans son livre Makers and Takers, Rana Forouar développe la thèse selon laquelle la responsabilité de ce dérèglement, c'est la financiarisation. La finance, les takers donc, pèse d'un poids démesuré sur l'économie américaine. Avec à peine 4% des emplois, cette activité s'attribue 25% des profits. Comme elle l'écrit, quand la finance devient trop grosse, elle absorbe tout l'air de la pièce. Le business, les makers, étouffent. Plus grave, les banques ne jouent plus le rôle qui devrait être le leur. Au lieu de drainer l'épargne des particuliers vers les entreprises, elles ne consacrent plus que 15% de leurs capitaux aux prêts aux entreprises. Du coup, la finance s'est autonomisée. Elle a créé une économie parallèle, déconnectée de l'activité productrice, une réalité virtuelle, des bulles spéculatives dont l'éclatement inévitable menace le système d'explosion de plus en plus fréquente.
Mais alors, quelles sont les causes de cette situation, Brice? En tout cas, selon votre économiste du Time.
Eh bien, d'après Rana Forouar, cette évolution dommageable aurait deux sources. Primo, un mouvement de dérégulation dont les démocrates oublient de dire qu'ils y ont largement participé, puisqu'il a commencé sous Jimmy Carter et qu'il a été parachevé par Bill Clinton. Deuxio, la politique d'argent facile initiée par le sorcier de la Fed Alan Greenspan, mais amplifiée par ses successeurs. Après la crise de 2008, la Fed a injecté, tenez-vous bien, 4 500 milliards de dollars dans les circuits économiques. Résultat, un boom artificiel qui n'enrichit que les riches. Alors, la thèse de la financiarisation, vous me direz, c'est pas une nouveauté intellectuelle. Le socialiste allemand Rudolf Hilferding l'avait exposée dès 1910 dans son livre Le capital financier. Mais elle retrouve une certaine actualité et se trouve au centre de l'argumentaire de Post-Capitalism, A Guide to Our Future, un ouvrage publié l'an dernier par Paul Mason, un journaliste anglais très écouté sur la BBC. Pour lui, le capitalisme aurait épuisé ses capacités d'adaptation. Il ne résistera ni aux 50 années de stagnation qu'on nous promet, ni aux catastrophes écologiques qu'il a provoquées. La capacité d'adaptation, c'est au contraire ce sur quoi mise une grande universitaire américaine, Joyce Appleby, dans un livre qui vient d'être traduit opportunément par les éditions Piranha, « Capitalisme, histoire d'une révolution permanente ».
Et qui est Joyce Appleby, Brice?
Et bien, c'est une femme qui, après avoir repris ses études sur le coup de la trentaine, c'est un bon signe, est devenue professeure à l'Université de Los Angeles, spécialiste de l'histoire des idées et de l'économie. Elle a été élue en 1993 présidente de l'Organisation des historiens américains. Aujourd'hui, à 87 ans, cette femme élégante et affable continue à donner des interviews. On peut en regarder sur Internet et son histoire du capitalisme, remarquable par la quantité des informations sur lesquelles elle s'appuie, se situe dans le sillage de Max Weber et de Joseph Schumpeter. Comme Weber, elle voit d'abord dans le capitalisme un système culturel, un état d'esprit tourné vers la recherche et la valorisation de l'innovation. Et comme Schumpeter, elle pense que le capitalisme procède par des déséquilibres en série.
Merci beaucoup Brice, on retrouvera bien sûr la suite consacrée au capitalisme demain et on peut retrouver bien sûr votre chronique sur le site de France Culture, de Culture Monde, je pense qu'on doit pouvoir retrouver tout ça. Merci beaucoup Brice.
Merci Florian.
À demain.